Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers popophiles, chers popophages et popovores de tout poil, nous voici donc réunis pour une nouvelle émission de Pop en stock transatlantique. Et aujourd'hui, nous nous réunissons à nouveau des deux côtés, justement, de l'Atlantique pour affronter un vaste sujet qui est un peu une boîte de Pandore, à la fois pour notre culture contemporaine et pour cette émission, la question de l'espace extérieur crépusculaire ou son stade ou moment crépusculaire. Pour cela, nous avons à nouveau la chance de recevoir Hélène Machinal, que nous avons déjà accueillie plusieurs fois, donc professeure à Brest, donc l'Université de Bretagne occidentale. Bonjour Hélène et merci. Nous avons toujours notre pilier de l'émission Hélène Després de l'UQAM, que vous connaissez a fortiori maintenant. Nous recevons pour la première fois Mehdi Achouche, maître de conférence en études cinématographiques anglophones à Paris 13. On célèbre avec lui ce nouveau poste. Et nous avons enfin Régis Pierrefeu qui vient de mettre aussi le point final à sa thèse sur la néo-décadence, thèse que nous avons suivie un peu ici aussi au fil des émissions. Et nous le félicitons aussi. Merci beaucoup, Régis. Merci à tout le monde d'être là. Alors, pourquoi l'espace crépusculaire? C'était un peu quelque chose qui était venu au fil de discussions avec Hélène dans d'autres émissions et dans d'autres réflexions. Le fait qu'il existe désormais un corpus, une sorte de micro-genre, ou peut-être plutôt une ambiance, un mood, une tonalité qui a été diversement signalé par la critique, souvent avec un certain humour. Alors, certains l'ont catégorisé comme « depressed in space », donc la dépression spatiale. D'autres parlent de « sad astronauts », les astronautes tristes. Et c'est un micro-genre dont on reconnaît certaines figures qui ont eu des grands succès, comme « Interstellar », « Ad Astra », dont on va parler. Des films plus de niche, on va dire, comme « High Life », ou Aniara, et toute une série d'autres petits ouvrages, enfin d'autres ouvrages moins connus, Love, Red Planet, Stranded, Wandering Earth, Sunshine, etc., qui tournent autour d'une nouvelle vision extrêmement donc mélancolique, voire dépressive, comme on l'a déjà signalé, et en tout cas crépusculaire de l'espace extérieur. Alors on va un peu affronter, ce sont des films qui sont unis plutôt par cette tonalité, voire cette vision du monde, que par des aspects strictement thématiques, même si plusieurs échos, on va pouvoir le constater au fil des interventions, il y a plusieurs échos qui se créent entre eux. C'est d'autant plus significatif que ce stade crépusculaire est emblématique de quelque chose de plus général, une vision très crépusculaire, désenchantée et mélancolique de la culture pop en général, qui va de la fantasy jusqu'à d'autres types de thèmes de science-fiction, tels que les dystopies, mais qui s'est même infiltré dans les films de super-héros, la trilogie de Snyder, par exemple, qui fait même de l'emblème initial de l'optimisme Uber états-unien qu'est Superman, une figure quasi aussi dépressive que sa némésis dans le deuxième volet qu'est Batman. Donc c'est vraiment quelque chose de très général et qui prend, dans le contexte de l'espace extérieur, une relevance particulière puisque c'était la nouvelle frontière, c'est-à-dire que c'était vraiment au moment du Space Age, de l'âge spatial, au moment de la course à l'espace, la Space Race, c'était vraiment l'imaginaire d'un nouveau départ pour l'Amérique, une nouvelle frontière, alors que la frontière classique, le western, était en train de péricliter dans ses formes justement crépusculaires. Et ici, nous avons comme une sorte de décalage, de la même manière que le grand genre idéologique américain qu'était le western avait périclité de manière mélancolique, autodestructrice, etc., dans les années 60-70, nous avons maintenant le tour qui est venu à cette nouvelle frontière qu'était l'espace. Parmi ceux qui ont un peu réfléchi sur cette question de la fin crépusculaire de l'imaginaire de la conquête de l'espace, il y a Simon Reynolds, donc dans son livre auquel nous avons déjà fait référence à plusieurs occasions, c'est Retromania, donc Rétromanie, où il y a justement tout un chapitre du livre qui est consacré à cet imaginaire-là, qui s'appelle Out of Space, Nostalgia for Giant Steps and Final Frontiers, donc en manque d'espace, on pourrait traduire, ou hors de l'espace, la nostalgie des pas géants, en faisant allusion évidemment à Armstrong et un petit pas pour l'homme, un pas géant pour l'humanité, et des frontières ultimes, donc en faisant plutôt référence à l'imaginaire de Star Trek. Alors Reynolds, dans ce chapitre-là, dans un livre qui s'intéresse, donc de 2012, qui s'intéresse à quelque chose d'assez étrange, qui est cette sorte d'obsession du 21e siècle et la culture pop, plus spécifiquement du 21e siècle, pour son propre passé, s'intéresse au fait qu'il y a eu, après cet immense enthousiasme et engouement dans toute la culture pop des années 60 pour l'espace extérieur, au fait qu'il y a eu une sorte d'implosion dans les années 70. Et il dit quelque chose d'assez intéressant. Je cite, au lendemain de l'alunissage de Apollo 11, les compagnies aériennes Panam ont commencé à accepter des réservations pour des vols vers la Lune, tandis que la NASA parlait d'établir une base lunaire permanente dans les années 80. La course à l'espace semblait intimement liée à toute la dynamique néophile des années 60, à son culte de la percée et de la rupture, à l'énergie brisant toutes les contraintes et les limites. Ce n'est pas une coïncidence si la course sur la Lune a culminé au cours de l'été 69, quelques semaines seulement avant Woodstock, qui était lui-même le point culminant du culte de la jeunesse des années 60 et de la génération New Now, nouveau et maintenant. Presque inévitablement, 1970 ne pouvait être qu'une année de déflation et de descente. Les Beatles se séparent et la musique semble stagner alors que le rock se tourne vers son passé. En avril 1970, la couverture télévisée de la mission Apollo 13 était annulée au profit du Doris Day Show. Et justement, film qui se situe tout à fait dans ce sillage, donc Zardoz, où il y a déjà une vision tout à fait désenchanté de cette idée de l'imaginaire de l'espace. Il est intéressant de voir qu'au même moment qu'il y avait ce triomphe technologique, imaginaire, etc., de la course vers la Lune, il y avait déjà dans la science-fiction, dans la new wave de la science-fiction, une vision totalement désenchantée de cela. C'est ce qu'on voit notamment dans tout le cycle de nouvelles de G.J. Ballard consacré à la figure de l'astronaute mort, le dead astronaut, qui revient vraiment dans beaucoup de ces, qui est presque un symbole absolu pour Ballard. Alors c'est assez intéressant de voir que même au climax même de cet imaginaire de la conquête de l'espace, donc cette sorte de néo-impérialisme en pleine époque de la décolonisation, etc., etc., qu'il y avait déjà cette vision que ça allait foirer et que finalement, mélancolie totale dans les nouvelles de Ballard, où reviennent ces figures de gens qui font le deuil d'astronautes qui continuent à tourner en orbite autour de la Terre et qui sont morts depuis des décennies. Donc une image très forte pour signaler un peu la face sombre de cette grande course à l'espace. Et alors on dirait que, c'est ce que Reynolds remarque, lui s'intéresse beaucoup à la musique, l'espace extérieur dans la musique, que ce soit dans Tangerine Dream, que ce soit dans la musique concrète, etc., etc. Et comment peu à peu, ça devient des sortes de clichés, ça devient quelque chose de plus en plus irréaliste, Star Wars, évidemment, ça devient des espaces proches de la fantasy plutôt que des espaces de véritable projection, comme ça avait été le cas jusque-là. Et on pourrait dire même qu'il y a un certain hiatus des films qu'on, des fois, on appelle des spacesuit films, des films d'astronautes, mais de costumes d'astronautes, si on veut. Et on dirait qu'il y a une sorte de hiatus. Et dans les années 2000, et assez spécifiquement 2010, parce que je dirais presque, on pourrait débattre, mais c'est quand même Moon qui, 2009, revisite cet imaginaire, revisite cet espace avec une sensibilité émo, mélancolique, dark, etc., etc., totalement assumée. D'autant plus intéressant que c'est le fils de Bowie qui lui-même avait chanté l'espace extérieur et avec déjà une certaine ambiguïté, donc notamment avec Major Tom et tout son cycle interspatial. Donc c'est assez curieux que le fils de Bowie revienne sur un imaginaire qui était déjà très ambigu chez son père et qui relance donc tout ce cycle que j'évoquais tantôt, où il y a une vision extrêmement désenchantée de la conquête de l'espace. D'autant plus paradoxal que, dans les faits, nous sommes, après plusieurs années de discrédit et d'indifférence à l'égard des projets de retourner dans l'espace, nous sommes très étrangement dans une époque qui est en train de revisiter ce rêve-là. Les Chinois s'y intéressent, Bezos s'y intéresse, il y a comme à nouveau de temps en temps cette idée qu'on va aller sur Mars. Donc il y a comme très étrangement à la fois la résurgence du rêve du point de vue de l'industrie, du complexe militaro-industriel, etc., etc., puisque ça a toujours été quand même ça. Tout le programme spatial était traversé par la guerre froide et par l'idée d'une militarisation de l'espace, traversé par la récupération des savants nazis, etc., etc., pour gagner cette course. Donc, quelque chose de très, très, très angoissant et inquiétant, qui est un peu relié aussi à l'idée qu'il y allait peut-être y avoir une catastrophe atomique qui allait exploser la planète et qu'il allait falloir trouver quelque part d'autres où aller. Donc, quelque chose aussi qui résonne avec notre imaginaire contemporain de la fin et de cette idée que peut-être s'il y a un renouveau, ce sera peut-être forcément ailleurs, ce qui est paradoxalement crépusculaire aussi, même s'il y a un certain messianisme ou un certain millénarisme là-dessus. Mais dans ces films-là, ce qu'on voit, c'est plutôt des courses vers le néant sous toutes leurs formes. Peut-être le film le plus dépressif, c'est Aniara, mais très curieusement, Aniara est l'adaptation d'un opéra tout à fait improbable des années 50, d'un opéra suédois des années 50. Donc, c'est assez curieux que ce film qui réapparaît, je pense, c'est 2018, revisite un imaginaire angoissé de la guerre froide et le réactualise de façon très forte, très réussie dans le contexte actuel. Donc, voilà un peu le schéma ou le paradigme un peu auxquels on fait face dans ces nouvelles incursions dans l'espace extérieur. Nous aurons l'occasion de reparler un peu de cela par la suite. Je passe la parole donc tout de suite à Mehdi qui va parler de deux de ces films emblématiques de cette mélancolie émo qui arrive dans l'espace, donc Ad Astra et Interstellar.
Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, avant de parler, je vais faire une toute petite introduction avant de parler de Interstellar et Ad Astra pour recontextualiser un peu les choses comme tu viens de le faire d'ailleurs. Cette idée de l'espace intérieur, du inner space, elle est vraiment importante puisque c'est quelque chose qui apparaît justement dans les années 50 dont tu parlais. On a ce romancier britannique Priestley, J.P. Priestley, qui parle de inner space, qui critique les rêves du début des années 50 de conquête spatiale, qui critique la science-fiction comme étant une erreur et comme véhiculant en fait finalement un inconscient d'angoisse, de peur et de culpabilité. Et il appelle finalement les hommes à se retourner vers la contemplation de leur vie intérieure, à rester chez eux près du feu, c'est ce qu'il écrit dans son essai, pour se concentrer sur l'essentiel. Il a un passage de l'essai que je trouve intéressant puisqu'il dit « Nous détruisons notre planète et nous voulons apporter la destruction vers les autres planètes ». Et ça, c'est typique. Finalement, dans les années 50, on a cet utopisme technologique à base de puissance nucléaire, de conquête spatiale, etc. Et en même temps, on a des gens qui sont encore minoritaires à l'époque qui disent « Mais attention, le nucléaire, c'est très dangereux, la technologie, on est en train de tout détruire et l'espace n'est pas la solution. » Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, on a Ballard en 62 qui fait son fameux essai qui appelle finalement à oublier le « outer space » pour se concentrer sur le « inner space ». Et c'est ça, finalement, tout le projet de l'œuvre de Ballard. C'est ça, l'astronaute mort, c'est cette critique, cette satire, finalement, de l'exploration spatiale à l'ancienne pour revenir sur Terre et revenir au monde intérieur de notre inconscient. Il aime explorer l'inconscient. C'est ça, finalement, le véritable objet de ses écrits. Et en Zardoz, donc, qui sort en 1974, il est typique d'un cycle du cinéma de science-fiction des années 70 qui devient beaucoup plus critique sur la science, la technologie, ou une certaine acception de la science et de la technologie, et qui abandonne presque complètement, pas entièrement, mais presque complètement, l'exploration spatiale pour se recentrer justement sur la Terre. C'est des films qui sont très souvent dystopiques et qui imaginent l'avenir ici sur Terre, demain, à base de pollution, à base de surpopulation, etc. Et donc, on a des films comme ça. Par exemple, j'en veux pour preuve, le film majeur qui est 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment, si on a lu le script d'origine, le script d'origine qui est coécrit donc par Arthur C. Clarke, ce grand auteur de science-fiction, est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus clair, beaucoup moins ambigu. Et il s'agit d'exploration spatiale et il s'agit de relever des challenges, des défis pour réussir à coloniser l'espace. Or, ce que je viens de décrire, ce n'est pas forcément le film que vous avez tous en tête. Kubrick, lui, sur la base de ce script, il a produit un film beaucoup plus ambigu, beaucoup plus ambivalent. Et peut-être, je ne sais pas, beaucoup plus, j'allais dire pessimiste, en tout cas plus sombre, j'aime bien ce terme parce qu'il est assez vague, sur le potentiel de l'exploration spatiale. Et en tout cas, je crois que c'est un film qui, malgré le fait que superficiellement, il explore l'espace extérieur, en fait, peut-être qu'il concerne un peu plus notre espace intérieur, la conscience, l'intelligence humaine. Le dernier exemple, c'est La planète des singes, évidemment, qui sort la même année, en 68, où on pense qu'on est en train d'explorer une autre planète, science-fiction traditionnelle, et à la fin, attention, spoiler, en fait, on était sur Terre, on revient sur Terre, et on se rend compte qu'on n'a fait que tourner en rond, en fait. Les astronautes ont tourné en rond, et ils sont revenus sur Terre. Et c'est très symbolique, finalement, de ce cycle qui nous dit qu'on ne fait jamais que revenir sur Terre, et qu'il n'y a pas d'autre, finalement, à venir que sur Terre. Et donc, Zardoz, justement, on découvre, je ne raconte pas l'histoire du film, mais dans le film, on découvre une technologie incroyablement avancée, avec une intelligence artificielle, et un personnage remarque qu'elle avait été conçue à l'origine pour explorer l'espace, et qu'ils y sont allés, mais qu'il s'agissait de « another dead end ». C'était une autre impasse. Et donc, ils sont revenus sur Terre, ils ont créé cette utopie slash dystopie sur Terre, car l'espace était donc une impasse. Et ça, c'est assez typique de ce cinéma-là, donc à partir de 68. Et donc, on retrouve cette sensibilité depuis, on la retrouve aujourd'hui. J'ai envie de dire, on retrouve les deux sensibilités, techno-utopiste et celle qui est plus pessimiste et plus sombre. Alors, celle qui est plus optimiste, pour commencer par elle, ce serait donc Interstellar. Même si le film est assez sombre aussi, hein, évidemment, mais on se rappelle finalement que dans le film, la Terre est en train de s'autodétruire, l'humanité a pollué, a détruit sa planète, et il n'y a d'autre solution que dans l'espace. Il faut pouvoir aller explorer, il faut pouvoir sacrifier sa famille, son énergie, pour son individualité, pour le collectif. Et c'est ce que font les personnages. Ils vont réussir à le faire. On voit à la fin du film que le héros, le personnage principal, le protagoniste, a réussi, malgré les dangers, il a relevé tous les défis de l'exploration spatiale et il a enfin réussi à garantir à l'humanité, lui et sa fille, à garantir à l'humanité un nouvel avenir. Donc ça, c'est un premier message qui est d'autant plus intéressant que le film montre bien, surtout dans son premier acte, l'humanité tourner le dos à l'exploration spatiale. Vous rappelez peut-être, on a ces éléments qui montrent que plus personne ne croit qu'on a été sur la Lune. Les gens semblent tous convaincus que c'est une théorie du complot et qu'en fait, c'était une mise en scène. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que c'est Stanley Kubrick, justement, qui a mis en scène la première exploration spatiale en 69, justement. Et donc, le héros, lui, il est aussi héros parce qu'il y croit encore. C'est en ça qu'il est héros à l'origine. Ce n'est pas juste parce qu'il se sacrifie et qu'il y va, c'est parce qu'il croit encore à l'espace. Et c'est parce qu'il va prouver lui-même qu'effectivement, on peut aller dans l'espace et que ce n'est pas une impasse et qu'il y a d'autres planètes qu'on peut coloniser et qu'on peut aussi créer, en l'occurrence, des stations spatiales. Et je trouve ce film vraiment intéressant car il est vraiment porteur d'un message, d'une réflexion qui était celle justement d'Arthur C. Clarke. Et c'était le message de C. Clarke dans la plupart de ses romans, The City and the Stars ou d'autres, qui était « il ne faut surtout pas rester sur Terre, il ne faut surtout pas avoir peur, il ne faut surtout pas se renfermer sur soi-même. L'espace intérieur, pour C. Clarke, c'était quelque chose de dangereux. Non, il faut explorer, il faut aller de l'avant car c'est la nature humaine, etc. » D'ailleurs, on pourrait citer aussi The Martian, qui est aussi beaucoup comme ça, en fait. C'est un film qui a été décrit comme pessimiste par certains, mais je ne suis pas du tout d'accord. C'est un film qui montre les dangers, qui montre les challenges, mais c'est un film et le roman d'origine qui montre qu'on peut relever tous les défis, on peut surmonter toutes les difficultés et on peut y arriver. Et le personnage, certes, ce Robinson Crusoe de Mars, vous vous rappelez, il est certes rapatrié sur Terre, mais on voit à la fin de nouvelles missions qui partent, les Chinois, les Américains, main dans la main, qui partent explorer Mars, et cette fois-ci, ça va fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est deux films qui sont porteurs d'un certain utopisme, d'un certain optimisme en tout cas, et qui croient encore en la valeur et en la possibilité de l'exploration spatiale. Vous vous rappelez, c'est très symbolique, mais le personnage fait pousser des pommes de terre sur Mars. Et il s'exclame comme ça, ça y est, j'ai colonisé Mars. C'est une blague, mais l'air de rien, il est en train de dire quelque chose à ce moment-là. Donc ça, c'est Interstellar et The Martian. Mais de l'autre côté, on a des films comme Ad Astra, qui, eux, sont plutôt les héritiers de Ballard et d'autres auteurs, qui, eux, en fait, sont en train de déconstruire ce projet, cet optimisme-là, et qui nous proposent, au contraire, un espace vide. Ad Astra, on découvre, parce que c'est souvent la fin, hein, finalement, qui est importante, les révélations finales, on découvre que, manifestement, il n'y a aucune forme de vie dans la galaxie. Que les rêves du personnage du père, le père du héros, et en fait étaient des rêves stériles. Il a sacrifié sa vie et surtout il a sacrifié sa famille à l'autel d'un rêve qui n'a mené nulle part, qui est une impasse. C'est l'impasse dont il était question dans Zardoz. Il n'y a rien au-delà de Neptune. Et donc, lorsque le personnage principal, interprété par Brad Pitt, se rend compte de ça, il ne peut que rentrer sur Terre. Voilà, il rentre sur Terre et une fois sur Terre, il va renouer les liens avec son épouse, avec sa famille. Il a compris la leçon de son père. Il a réussi symboliquement, vous rappelez la scène où il s'éloigne de son père, où son père le rejette dans l'espace. Il a coupé le cordon ombilical. La psychologie du film est assez facile à comprendre. Et il va pouvoir devenir un homme, il va pouvoir devenir un père de famille et un mari en rentrant sur Terre. Voilà, c'est ça le propos du film. Ce n'est pas du tout l'exploration spatiale. Et j'aime bien ce propos du réalisateur de Ad Astra, James Gray, qui donc a dit explicitement que lui, il voulait adapter à nouveau Heart of Darkness de Joseph Conrad dans l'espace, donc un récit à base d'exploration coloniale et de folie du personnage principal. Il dit à nouveau parce qu'il a été adapté dans Apocalypse Now. Donc il y a beaucoup de critiques à l'époque, en 2019, de la sortie du film, qui ont remarqué les nombreux parallèles entre Ad Astra et Apocalypse Now. Seulement, c'est l'espace qui remplace le Vietnam. Je trouve que c'est assez quand même révélateur de la vision qu'a ce film de l'espace. Dans l'espace, c'est la mort, c'est la solitude, c'est la folie. On retrouve plusieurs exemples comme ça de folie. On a aussi l'exemple, le passage dans Ad Astra, où le personnage, un passage, une scène qui n'apporte rien au film au niveau narratif. Quand il rencontre le vaisseau déserté avec des singes fous, vous vous rappelez ? Mais le propos, à mon sens, de cette scène, de cette séquence, de ce passage, c'est de nous comparer aux primates. Nous pouvons être comme les singes. Et à nouveau, les singes, c'est pour ça que je parlais de 2001 et de la planète des singes, c'est pas totalement accidentel. D'ailleurs, James Gray lui-même disait « j'ai envie de faire mon 2001 d'Odyssée de l'espace », aussi quelque part, il était très ambitieux dans son film. Donc je pense que c'est ça le propos. C'est pas seulement la mort, c'est pas seulement la folie, c'est aussi la solitude et c'est aussi le vide de l'espace. Le vide dans le sens où il n'y a pas d'autre intelligence, il n'y a pas d'autre forme de vie que nous, la Terre. Donc nous avons intérêt à préserver la Terre, évidemment. Derrière ce propos-là, il y a aussi, regardez ce qu'on est en train de faire, on est dans le contexte de la collapsologie, on est dans le contexte de l'effondrement annoncé, imminent. Et là où Interstellar nous dit oui, certes, il y a d'effondrement imminent, raison de plus pour aller explorer les étoiles, qui est un propos très ancien qui est véhiculé par les techno-utopistes depuis très longtemps, Ad Astra, ou d'autres films dont on pourrait parler comme High Life par exemple, même si c'est moins explicite dans High Life, ce film ne fait que nous dire non. C'est pour ça que je parle d'Ad Astra principalement, parce que c'est le plus explicite dans son projet narratif. Il ne fait que nous dire il faut revenir sur Terre, car il n'y a que là, sur Terre, dans notre famille, dans des liens familiaux, le fait de se soucier des autres, que se trouve la solution. Voilà, donc on a comme ça une ligne assez claire entre deux types de films, entre deux types de récits de science-fiction qui sont très, très proches. Interstellar et Ad Astra, on pourrait multiplier les parallèles. On pense notamment au fait qu'il s'agit à chaque fois de récits qui tournent autour du thème de la famille, autour du thème du père, du rapport au père, qui se sacrifie. Interstellar est la raison de se sacrifier. Ad Astra, c'était une bêtise monumentale. Donc, beaucoup de parallèles à faire entre ces deux films, mais malgré tout, qui ont un propos qui est radicalement différent sur les raisons qui nous poussent à aller vers l'exploration spatiale, les raisons psychologiques, le fait qu'on veuille fuir. Dans Ad Astra, c'est clairement une fuite. Dans Interstellar, c'est plutôt la seule voie du salut, une évasion plus qu'une fuite. Et le fait que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut y trouver là-bas? Qu'est-ce qu'on va finalement y trouver? D'où l'importance du dernier acte, évidemment, puisque c'est aussi celui, malgré tout, on est dans le cadre des films hollywoodiens, qui recèle la morale, la fameuse morale de l'histoire.
D'autant plus que Rachel Hadler, donc, qui avait écrit pour The Vulture l'article que j'évoquais tantôt sur le genre de Depressed in Space, d'ailleurs de façon totalement humoristique, elle dit c'est mon nouveau genre préféré, et elle a écrit aussi une variante, donc toujours pour The Vulture, c'est Sad Dad Space Movies, a taxonomie, donc une taxonomie des films de papa triste dans l'espace. Donc clairement, où elle fait une analyse justement de l'aspect de la filiation qui est très important et qui au fond aussi rejoint de manière très improbable, mais dans l'article, d'autres figures de parents dans l'espace, dont évidemment, inévitablement, Darth Vader lui-même. Aussi la référence donc conradienne dans Alien, donc Nostromo, qui était aussi cette idée du transfert de l'imaginaire colonial, en fait, classique, si l'on veut, européen, vers la colonisation de l'espace, qui, elle, était toujours présentée comme quelque chose de purement technologique et où on essayait d'éclipser l'aspect colonial au profit de cette sorte de mystique du dépassement de l'humanité qui va vers sa nouvelle étape inévitable. Donc ça, c'était déjà des thèses qui étaient présentes chez les cosmistes russes, et c'était cette idée que l'évolution nous poussait à sortir de notre environnement de la même manière que nous étions sortis par les différentes étapes darwiniennes de nos différents habitats, et que là, nous étions appelés à aller ad astra, donc vers les étoiles. On y reviendra aussi. Avec Hélène, donc, on retrouve à nouveau donc, cette figure de tournant inquiétant de l'identité dans l'espace qu'est le clone, et à travers laquelle, justement, Bowie Jr., Bowie fils, s'intéresser à l'espace extérieur.
Oui, je voudrais développer une idée qui a été avancée par le philosophe des sciences, mais aussi la culture pop, Thierry Hoquet, dans son tout dernier livre, qui s'intéresse à ce qu'il nomme les presque humains. Je le cite, de prime abord, les personnages de presque humains paraissent ordinaires. Parfois, le sujet lui-même ne se doute pas de sa différence et se croit sincèrement humain. Sa première surprise est de se comprendre presque humain. Chaque fois, le passage de l'humain au presque humain se joue autour de la perte de l'individualité qui se prenait pour une fin n'est en vérité qu'un moyen. Le presque humain s'inscrit avec l'humain dans un jeu de différences, peut-être imperceptible au premier abord, mais dont les conséquences sont tellement radicales qu'elles semblent sortir l'individu de son appartenance à l'espèce commune. Donc, Hoquet classe les presque humains en quatre catégories, hein, les aliens, les équipés, les golems et les trans. C'est celle des golems qui inclut les robots, les clones et les androïdes qui va m'intéresser. Qui rapproche la figure du clone de celle du bétail et de l'OGM. Et on va voir que c'est très important dans ce corpus-là pour voir de quelle façon les clones sont liés à la mort dans l'espace. Puisqu'il explique, je le cite encore brièvement, une histoire de clone suit la trajectoire d'un être qui aspire à être individué, alors même qu'on lui dénie son statut autonome, voué à l'abattoir, il exprime pourtant une volonté rebelle. Clone fait donc irruption dans la société des humains comme un chien dans un jeu de quilles pour dénoncer l'iniquité du monde qui l'a fait naître. Donc, les fictions de l'espace mettent constamment en scène des golems. Si l'humain fantasme sur la colonisation, l'exploitation de l'espace depuis toujours, il n'est pas du tout adapté à la vie dans le vide intersidéral. Et comme il l'a fait pour dominer la nature terrestre en créant le bétail et la machinerie agricole, il est logique que l'humain voudrait dominer l'espace grâce à une forme nouvelle de bétail, les clones et les androïdes, qui ont l'autonomie et l'intelligence humaine, mais sans avoir les limitations physiques et ses droits surtout. Les exemples de clones spatiaux sont donc nombreux et toujours associés à la mort, puisqu'ils sont créés pour être sacrifiables, pour être envoyés à l'abattoir après quelques années d'exploitation. Et comme dans le monde agricole, la mort des uns permet la vie des autres. Donc, on reste dans un principe d'Eros et Thanatos. Donc, je mentionne quelques cas exemplaires. Premièrement, Blade Runner est entièrement basé sur ce principe-là. Les réplicants, et en particulier les Nexus 6, qui ont été créés pour supporter le dur travail dans les colonies minières du système solaire et mourir après 4 ans, comme des bêtes de somme. Bien sûr, l'histoire même de Blade Runner est la rébellion de ces androïdes clonés, leur arrivée sur Terre pour rencontrer leur créateur et tenter de changer leur date d'expiration. Le film entier met en scène leur mise à mort, leur retrait, pour reprendre l'euphémisme assez classique, en particulier qu'on utilise pour les bétails. Et évidemment, la mort finale de Roy Beatty est devenue un moment de cinéma particulièrement mémorable. Dans Alien Resurrection, par exemple, de Jean-Pierre Jeunet, Ripley est aussi clonée en niant complètement son individualité et son autonomie. Donc, véritable bétail, elle est clonée que pour donner naissance à des monstres, pour sa valeur génétique de croisement. D'ailleurs, elle est aussi associée à la mort, à la rébellion, lorsqu'elle tue, avec son propre sang en plus, l'enfant hybride qu'elle a permis d'engendrer. Dans Battlestar Galactica, les doubles clonés des Cylon androïdes qui sont tués et remplacés à volonté dans des vaisseaux-usines créés à cette fin reproduisent aussi le schéma d'une certaine façon. On pourrait croire qu'il s'agit seulement d'une forme de reproduction dans leur cas, puisque leur esprit est préservé, mais l'émergence d'individus singuliers est directement liée à un corps et une expérience de vie spécifique, hein, comme Boomer, Caprica 6 ou Leoben, qui se rebellent et revendiquent leur autonomie, mais ils sont tous déjà morts ou voués à la mort. Donc, ces espèces de clones, parce qu'on est en plus dans le biologique, donc on est vraiment plus du côté du clone que de l'androïde au fond, sont tous aussi voués à la mort dans la série. Au passage, on peut aussi mentionner The Expanse, puisque les travailleurs miniers de l'espace, hein, les Belters, sont traités comme du bétail, même s'ils ne sont pas vraiment des clones ou des robots. Mais leurs origines extraterrestres, donc qui sont nés à l'extérieur de la Terre et qui sont nés hors surtout de la gravité, et leur rébellion en font définitivement des presque humains, en tout cas dans la construction de la série. Dans Altered Carbon aussi, les clones apparaissent comme la seule façon de survivre et de prolonger indéfiniment l'existence de sa conscience. D'ailleurs, le principe même des stacks et des sleeves, hein, les consciences et les corps, pour héberger la conscience humaine, ont été inventés pour explorer l'univers, par Quill. Donc, résultat, les plus riches se font cloner pour se réincarner constamment et les corps clonés sont sacrifiés, tués, mutilés, utilisés comme du bétail. Mais il n'y a pas vraiment de rébellion possible, sauf peut-être le clone de Kovacs qui refuse de jouer le rôle pour lequel il a été créé dans la deuxième saison et se joindre lui aussi à la rébellion de Quill. Donc, le deuxième Kovacs à faire la même chose. La série Dark Matter, avant d'arriver à Moon, donc rapidement, utilise également le clonage comme mode de transport à longue distance et comme façon de ne pas mettre en danger son corps original. On les voit donc transférer leur esprit dans un corps cloné qui est ensuite détruit ou recyclé. Par contre, comme dans Altered Carbon, de manière générale, les clones sont que des corps sans esprit à eux, et il n'y a pas de rébellion possible ou d'individuation. Donc, on est plus revenu à un paradigme très cartésien de dualisme, mais il n'en demeure pas moins que ces exemples associent directement l'espace, le voyage spatial, aux cadavres qui s'accumulent, aux corps jetables qui s'empilent. Finalement, le cas qui m'intéresse le plus, c'est définitivement Moon de Duncan Jones, hein, dont évoquait déjà Antonio au début l'existence, dans lequel Sam Rockwell joue Sam Bell, un mineur d'hélium basé seul sur la Lune. Quelques jours avant la fin de son contrat de 3 ans, il part faire une réparation et subit un accident grave qui le laisse presque mort, du moins jusqu'à ce qu'un deuxième Sam Bell apparaisse magiquement dans la base, puis découvre le premier encore vivant. Les deux Sam Bell cohabitent difficilement au début, ils se battent, puis deviennent des alliés et découvrent qu'ils sont des clones, que la compagnie minière remplace régulièrement au besoin et que la vie de l'original, l'humain qui leur a donné naissance, se poursuit sur Terre avec sa fille qu'on voit seulement hors caméra, dont on entend seulement la voix. Ce qui est radicalement différent cette fois, c'est que les clones deviennent conscients de leur origine et de leur aliénation, justement parce qu'il y en a deux en même temps. La réalisation d'une origine artificielle dans un but utilitaire et du déni de leur individualité est à l'origine même de la rébellion qui se retrouve au cœur du film. Alors que le premier clone voit son corps se dégrader progressivement jusqu'à sa mort, le second organise une fuite vers la Terre et active un nouveau clone pour prendre sa place. Les clones dans Moon sont littéralement créés et traités comme du bétail, et c'est le sentiment de communauté qui se construit entre les deux, et aussi l'aide de l'intelligence artificielle programmée pour les aider, mais qui a reçu aucune instruction sur l'éventualité d'un dédoublement, et donc qui décide de les aider tous les deux, qui leur permet de gagner leur autonomie. La mort du premier clone, qui rejoue donc celle de tous ceux qui l'ont précédé, devient pour la première fois un vrai choix. Donc, le premier clone choisit la mort pour sauver le deuxième. Tout le film met en scène cette mort lente et douloureuse du premier Sam, alors que son corps est blessé, ensanglanté, affaibli, émacié, programmé pour se dégrader, par opposition au corps plus jeune du clone 2 qui fait constamment du sport et par opposition aux dizaines d'autres corps de clones qui sont en attente d'être activés et de subir le même sort hein, sous la base, dans le sous-sol. L'exploitation spatiale des ressources minières apparaît donc comme une vraie usine à dévorer les clones et le seul qui s'en échappe ne le peut que parce qu'une erreur lui a permis de prendre conscience de sa condition. Comme dans Blade Runner, les clones de Moon ont des souvenirs implantés pour les rendre plus humains. Identiques aux humains, sauf pour leur autonomie et leur finalité, ils sont l'exemple parfait du presque humain. La progression du clone 2, celui qui se rebelle, est exemplaire et fascinante puisqu'il prend conscience très tôt dans son existence du décalage ontologique qui sépare son identité fabriquée pour imiter celle d'un humain et la réalité de son existence de clone. Son corps étant en parfaite santé, son esprit jeune, on voit la rébellion en action et c'est le seul qui échappera à la mort spatiale puisqu'il parvient à revenir sur Terre. Comme un chien dans un jeu de quilles, hein, pour reprendre l'expression de hockey.
Oui, c'est d'ailleurs un vaste sujet relié à la question de l'androïde et de sa cohabitation étrange dans cet environnement qui oblige justement à passer à un autre stade de l'humanité où on retrouve un peu toutes les ambiguïtés de cet imaginaire du post-humain, du presque humain, de l'inhumain aussi. Donc, avec Régis, on retrouve un autre versant de l'imaginaire spatial qui est l'horreur, donc l'insistance donc sur l'horreur cosmique qui, j'imagine, nous renvoie au maître de Providence.
Oui, bah on est très bien organisé dans cette émission puisque ça va faire le parallèle entre ce qu'a dit Mehdi et ce qu'a dit Hélène, hein, c'est-à-dire post-humain et en même temps exploration dépressive de l'espace. Je voulais d'abord te rendre hommage sur le papa triste dans l'espace. Je pourrais plus voir Darth Vader de la même façon, hein, grâce à toi. Donc ça, je m'en souviendrai toujours. Je pense que c'est le highlight de l'émission là. Moi, je voulais parler de l'horreur cosmique, c'est-à-dire la fiction spatiale qui reprend les codes et les peurs de Lovecraft, hein, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'homme n'est qu'une fourmi dans le cosmos, et ce cosmos contient soit des civilisations anciennes qui sont terrifiantes et qui sont là pour le détruire, soit des éléments qu'il va découvrir et qui vont le rendre fou. Donc là, on est dans, je pense, le cas le plus extrême de la science-fiction dépressive, où on va explorer l'espace et on va trouver quelque chose. Mais en fait, ce qu'on va trouver, ça va être absolument horrible et donc il vaudrait mieux ne pas y aller. J'ai plusieurs exemples. Je me suis penché un petit peu plus sur le cinéma et beaucoup les jeux vidéo aussi parce que ça revient énormément. C'est quand même un des médiums majeurs maintenant dans la pop culture. Dans la première situation qui m'intéressait, c'était les fictions qui se penchaient sur les cas de premier contact. Donc premier contact, c'est-à-dire la première fois qu'on va rencontrer une civilisation alien, en tout cas quelque chose, une vie dans l'espace. Alors j'ai une petite liste, hein. Forcément je vais m'intéresser à des exemples particuliers, mais dans la saga Halo de jeux vidéo, on nous dit que l'humanité, la première civilisation qu'ils rencontrent, c'est les Covenants, qui est une civilisation extraterrestre basée sur un système théologique, et ce premier contact est un contact guerrier. On a bien sûr la fameuse série Alien où la première civilisation qu'on rencontre, et ben c'est une civilisation insectoïde, organique, destructrice ou qui se propage. Récemment, que ce soit dans la littérature ou son adaptation sur Amazon avec The Expanse et la proto-molécule, alors c'est pas forcément une civilisation qu'il rencontre, mais en tout cas c'est une forme de vie étrange qui est aussi destructrice. Saga de jeux vidéo, encore une fois, Mass Effect, on nous raconte que l'humanité, la première civilisation qu'ils rencontrent, les Turiens, est une civilisation avancée contre laquelle ils se battent et on se fait quasiment massacrer, encore une fois. Le jeu d'horreur Dead Space, qui est un grand classique de jeu d'horreur spatial, eh bien, avec d'ailleurs un personnage qui s'appelle Isaac Clarke. Alors là, vous avez vraiment les références parfaites de la science-fiction, qui répond à l'appel de détresse d'un vaisseau, l'Ishimura, et en fait, il se rend compte que dans ce vaisseau, il y a une forme de vie qui s'appelle le nécromorphe, qui ressemble à Alien, où en fait, elle prend possession des cadavres, les fait ressusciter comme des espèces de zombies et mute. Donc tous ces scénarios de premier contact sont des scénarios terrifiants qui empruntent à l'imaginaire lovecraftien. Ce sont d'ailleurs très souvent des cas de premier contact avec des civilisations organiques. Et c'est ça que je trouvais très intéressant. C'est-à-dire que nous sommes face à des civilisations, enfin des civilisations, c'est vraiment entre guillemets, parce que Alien, on peut pas vraiment parler de ça. Disons que ce sont plutôt des formes de vie où, qui représentent la vie comme propagation parfaite. Alors, on se souvient de la formule dans Alien, c'est-à-dire l'organisme parfait, c'est-à-dire le xénomorphe, c'est l'organisme parfait. Celui qui se reproduit très vite, celui qui est destructeur, qui est une arme parfaite aussi. Et c'est très souvent le cas dans ces univers-là. Donc, dans Dead Space, que je citais tout à l'heure, le nécromorphe, c'est une forme de vie qui fonctionne sur la zombification. Dans Alien, donc, ce xénomorphe fonctionne à la manière d'une ruche, hein, fonctionne à la manière des insectes. Et donc, il prend possession des corps. Hein, on connaît tous le monstre à l'intérieur du ventre hein, qui se développe. Dans la saga Halo, dont je parlais tout à l'heure, alors l'humanité découvre le Covenant, mais ensuite, elle découvre, bien pire que ça, une forme de vie organique qui s'appelle le Flood, qui fonctionne à la manière de Alien, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui gère à la manière des abeilles tous les êtres autour qui contaminent exactement comme dans Alien les humains et qui se propagent. Donc on a énormément de fictions qui nous mettent face à des formes de vie organiques qui nous contaminent et qui peuvent ensuite contaminer la Terre. D'ailleurs, c'est très souvent des scénarios dans lesquels il faut éviter que la forme de vie arrive sur Terre, parce qu'on la rencontre dans l'espace. Donc, il faut tout faire pour la détruire au moment où elle est dans l'espace. Donc, bien sûr, la protomolécule dans The Expanse, c'est le cas. Dans Halo, le personnage du Master Chief essaie d'auto-détruire les stations pour pas que le Flood arrive sur Terre. Dans Dead Space, c'est la même chose. Il essaie de détruire la station dans laquelle il y a eu un appel de détresse. Je trouvais ça intéressant, cette idée que si on va dans l'espace, on va se retrouver face à une forme de vie qui est beaucoup plus, on va dire, sauvage que la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de vie, paradoxalement, qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Il y a quelque chose de symbolique là-dedans qui est intéressant. Et c'est là que ça rejoint un petit peu les études d'Hélène Després et Hélène Machinal ici présente. Dans ces fictions-là, pour lutter contre ces formes de vie organiques, comme nous-mêmes, en tant qu'organisme, nous ne sommes pas assez forts, il y a la solution du transhumanisme. Donc ce sont des fictions qui mettent en scène des personnages qui choisissent de fusionner avec la technologie ou avec la cybernétique pour lutter contre ces formes de vie-là. Je pense à une autre saga que je n'avais pas mentionnée, qui est Mass Effect, saga d'exploration spatiale aussi. La fin de la trilogie nous laisse face au choix de la synthèse, entre guillemets, donc ça s'appelle la synthèse, c'est-à-dire fusionner, devenir un post-humain, pour pouvoir donc survivre à toutes ces itérations organiques dans l'espace. C'est la même chose dans Halo. Donc dans Halo, on fait en sorte de construire des surhommes, hein, puisque le personnage qu'on joue dans le jeu vidéo est un surhomme. Il est modifié génétiquement, technologiquement, pour pouvoir répondre justement aux menaces spatiales. En fait, de plus en plus dans les fictions modernes spatiales, surtout dans les jeux vidéo, comme je l'ai mentionné ici, on a des univers spatiaux monstrueux où seule la monstruosité peut survivre. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on hérite de Lovecraft. Mais ça va plus loin avec toute cette idée de virus organique. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui existe dans l'espace, ce sont soit des civilisations technologiques très avancées qui vont nous écraser, soit des vies organiques monstrueuses et qui se prolifèrent dans la monstruosité. Donc l'espace, cette espèce de grand vide, est comblé par la monstruosité et par des formes de vie qui se développent, c'est-à-dire par une idée d'immensité, de vie labyrinthique. Alors bon, j'aurais pu citer des tonnes d'univers. Il y a aussi Predator, hein, on y pense, Predator avec cette civilisation qui est une civilisation de chasse, carrément. Et puis, j'aurais pu aller un peu plus loin en parlant de cette opposition entre les civilisations avancées technologiques et les vies organiques, puisque dans ces fictions-là, on a aussi très souvent la découverte de civilisations qui sont déjà mortes et qui se sont fait écraser déjà par les vies organiques. Donc, c'est le cas dans Alien avec les ingénieurs hein, qu'on découvre, mais qui en fait qui sont morts. C'est le cas dans Halo, où on a les Prométhéens, qui est une civilisation avancée qui a disparu à cause du Flood, justement. Donc, il y a toujours cette opposition entre la civilisation technologique qui se fait écraser par la vie organique suprême, toute puissante, contaminatrice.
C'est aussi... intéressant dans le contexte plus global, des visions plus phobiques que les visions mélancoliques ou dépressives comme telles qu'on évoquait tantôt. Mais les deux sont assez complémentaires et c'est aussi assez intéressant quand on suit l'imaginaire de l'extraterrestre, donc qui a maintenant déjà quelques siècles d'existence. Dans l'évolution de cet imaginaire, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a eu un moment autour du premier soucoupisme, donc les premières théories ufologiques, etc., qui étaient plutôt du côté des observateurs bienveillants, qui... D'ailleurs, la nouvelle de Clark qui inspire en grande partie 2001, qui est la sentinelle de l'éternité, que nous avions déjà évoqué pour notre émission sur le monolithe. Chez Clark, il y avait cette ambivalence et il y avait un certain côté lovecraftien qu'on avait signalé à l'époque, mais il y avait aussi, donc le texte finit sur une énigme et on ne sait pas quelle va être la réaction des extraterrestres. Donc la sentinelle est activée sur la Lune, ce que reprendra Kubrick, mais on ne sait pas si ça va activer un signal d'alarme de la part des extraterrestres qui vont décider, en voyant que nous avons atteint le stade de la colonisation spatiale, la nécessité de nous oblitérer, ce qui va revenir dans les romans de Clark autour de 2001, la saga 2001, ou bien est-ce que c'est enfin... ils ont atteint le niveau qui fait qu'on peut parler avec eux et qu'on peut communiquer avec eux. Ce qui était le rêve des premiers contactés, c'était cette idée qu'ils commencent à s'intéresser à nous, etc. Or, ce que l'on constate maintenant dans l'imaginaire soucoupiste et ufologique, c'est au contraire l'idée des extraterrestres qui soit sont déjà ici, nous ont déjà envahis, donc les reptiliens, soit ils sont en train de nous utiliser pour des manipulations génétiques bizarroïdes, etc., etc. Et là, on retrouve une idée très phobique de l'altérité, etc., etc. Donc, c'est assez curieux. Je pense que ce qu'on voit à travers ces différents symptômes, c'est comment on décline les vieux thèmes de la science-fiction, mais avec des tonalités qui, je pense, sont assez propres à ce que nous sommes en train de vivre. On pourrait revenir à ce roman de Philip K. Dick que j'évoquais tantôt, A Maze of Death, de 1970, traduit en français « Au bout du labyrinthe », où justement, une série d'une manière qui est très typique chez Dick, on passe par des idiocosmes, donc par des visions du monde totalement solipsistes, qu'on ne sait pas trop comment le lecteur, la lectrice est perdu par rapport au référent. Et on découvre que les univers auxquels on a assisté pendant le roman correspondent à une situation où tous les personnages se réveillent pour découvrir qu'ils sont en fait l'équipage d'un vaisseau Persus 9, donc, dont ils avaient tatoué mystérieusement donc, le nom sur leur corps, qui est bloqué en orbite autour d'une étoile morte sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Donc nous sommes vraiment là dans l'imaginaire en 70, dans un imaginaire très ballardien de l'espace clos, de l'espace de la mort, de l'espace extérieur comme espace mortifère. Leurs expériences, donc, jusque-là, étaient une sorte de réalité virtuelle générée par un ordinateur qui synthétisait leurs croyances. Leur mise en sommeil devait permettre d'économiser l'énergie des systèmes de survie du vaisseau pour le cas improbable où quelqu'un le détecterait et les sauverait. Et il apparaît clairement qu'ils ont déjà accompli plusieurs cycles de dormance de réalité virtuelle en raison de la désintégration progressive, chaque fois plus cauchemardesque que la précédente. Et justement, le personnage principal, Seth Morley, est déprimé par cette révélation et se demande s'il ne vaudrait pas mieux laisser échapper tout l'air du vaisseau et donc tous se suicider plutôt que de rester engagé dans des réalités virtuelles à l'infini. Je ne vais pas spoiler la fin, donc comme tout chez Dick, c'est clairement un livre à explorer et à se perdre dans ses dédales. Le labyrinthe est d'ailleurs dans le titre. Mais c'est très curieux de voir que dès 70, nous avons un peu la confluence entre l'espace extérieur, le virtuel, la mort, etc., etc.
Je voulais revenir sur ce que Régis a dit sur certains aspects de son intervention. D'une part, tu parlais que les humains décident de s'hybrider, tout ça, pour lutter contre les dangers de l'espace. Mais en fait, c'est l'origine même du cyborg. Hein. Le cyborg a été imaginé d'abord et avant tout comme une façon de s'adapter à la vie dans l'espace. Donc, je pense qu'il y a, un retour là qui est hyper logique. Mais donc, ça, c'était assez bref. Il y a un cas aussi de zombies dans l'espace, disons, qui est assez intéressant. Le cas de Firefly, la série et le film Serenity, où c'est l'espace qui rend fou, c'est l'espace qui rend cannibale, c'est l'espace qui zombifie. C'est l'idée que d'aller au bout de l'espace, ça rend fou, ça rend dans ce cas-là cannibales, c'est les Weavers, en fait. Donc, ça déshumanise. Ce qu'on voyait d'ailleurs dans Ad Astra, au fond, c'est un peu ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est assez pessimiste. C'est vrai qu'on ne trouve rien, mais ça montre à quel point l'humain a besoin de trouver quelque chose là. C'est-à-dire que ça révèle aussi ce besoin de l'humain pour ne pas devenir fou, de penser qu'il y a quelque chose.
C'est très Lovecraftien, parce que dans les deux cas, qui découvre quelque chose ou qui ne découvre pas quelque chose, la folie l'attend au bout du tunnel. Et c'est ça qui est dépressif dans l'horreur cosmique, justement, Lovecraftien.
Ouais, le vide de l'espace, ça rend forcément fou.
Voilà, le vide de l'espace rend fou, exactement. C'est comme si le vide de l'espace était paradoxalement un espace clos, en fait. C'est pour ça que l'architecture d'un film comme Alien est labyrinthique. Il y a quelque chose de l'espace clos, alors qu'on est dans l'espace et que ça devrait être immense, qui nous rend dingue. Ouais. Toutes vos interventions m'ont fait penser. Donc, j'étais en train de me dire, il y a une série très récente qui mélange vraiment tout ça. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Raised by Wolves de Ridley Scott. Là. Et ça, je trouve que ça rejoint vraiment notre propos aussi. Donc le mien, bien sûr, parce qu'il y a encore une fois cette vie organique terrifiante, horreur cosmique Lovecraftienne qu'on découvre à la fin de la saison. Je ne vais pas essayer de trop divulgâcher. Et puis, il y a les androïdes, il y a l'espace virtuel dans lequel s'immerge l'androïde. Il y a le fait que, bah, comme tu le disais avec Hélène, avec le cyborg, on envoie des androïdes pour perpétuer l'humanité, parce qu'on pense que l'androïde va mieux résister à l'espace. Dans cette série, il y a toutes les thématiques chères à Ridley Scott, là, avec lesquelles il est obsédé, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je pense, là-dessus aussi.
Tu parlais justement de ces extraterrestres-là qui se multiplient à l'infini, donc plutôt insectoïdes, qui gagnent sur le technologique. Ça nous renvoie aussi à cette logique-là de l'entropie, de la mort de l'univers, en fait. Parce qu'on est dans une logique de la répétition du même, de la simplification qui va finir par gagner sur le technologique qui est au fond juste une forme d'entropie, d'îlot d'entropie négative. La technologie, dans la logique cybernétique, c'est juste la lutte contre ça, en fait.
Donc, ouais, non, c'est intéressant.
Au fond, c'est l'échec du technologique à lutter, parce que forcément, un jour ou l'autre, il va forcément y avoir un échec, puisque c'est une loi de la thermodynamique. Donc, l'univers s'en va vers l'entropie, et donc, on ne peut pas vraiment lutter à jamais contre ça.
Mais il y a quand même une dualité, parce que dans les deux cas, dans les deux types de rencontres, c'est-à-dire civilisation avancée technologiquement qui nous massacre, ou alors vie organique qui se multiplie et qui est beaucoup plus forte que nous dans sa pulsion de vie, on a deux inquiétudes de l'humanité qui sont intéressantes. C'est que, un, on n'est pas assez fort technologiquement, en fait, on n'est rien. Et deux, on est une vie organique beaucoup trop simple, en fait, pour l'espace. Donc, les deux inquiétudes, elles révèlent quelque chose sur notre rapport au cosmos et la peur qu'on a de cet inconnu-là.
Oui, mais il y a aussi une dimension temporelle, je trouve, qui entre en compte dans ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est une forme de jeunesse à l'humanité aussi dans ce contexte-là. C'est tout le temps des civilisations très, très, très anciennes. Même souvent, on a cette idée qu'il y a l'espèce de profondeur de l'espace qui devient une profondeur temporelle aussi qui devient insupportable. Donc, on a l'impression qu'on est trop faible, mais aussi peut-être qu'on n'est pas encore réussi à atteindre un certain niveau d'évolution. puis que c'est le danger de la rencontre entre le très évolué et le pas encore si évolué, donc qu'on voit déjà dans 2001, qu'on voit depuis toujours. Mais cette idée-là, elle apparaît souvent. Je pense qu'un exemple qui est un peu hybride par rapport à ça, puis qu'on peut se demander où ça va, c'est le Borg dans Star Trek, en fait. Parce que là, on est dans l'idée de l'insecte qui se multiplie, tout ça, mais on est dans le technologique aussi, on est dans l'absorption de la civilisation plutôt que dans... T'sais. Donc, ouais, je sais pas trop comment le mettre dans cette paradigme-là, mais...
Oui, puis l'évolution de Star Trek est intéressante aussi à interroger parce que, justement, elle commençait comme cette sorte d'utopie très kennedyenne, d'un espace qui, au fond, était quand même assez similaire à nos coordonnées, malgré les effets de distanciation, des familiarisations, etc. Mais, au fond, il n'y avait pas nécessairement quelque chose de profondément claustrophobe. Il y avait plutôt l'engouement de pouvoir justement se téléporter, passer d'un endroit à l'autre, revenir au vaisseau. Et il n'y avait pas un sentiment qu'on était tout le temps limité, comme on a par exemple. C'est un des traits les plus flippants et les plus stressants des films récents. C'est l'aspect systématiquement claustrophobe de la respiration, la contrainte d'être vraiment dans des cocons technologiques qui peuvent à n'importe quel moment dévoiler leur inadaptation ou leur obsolescence, leur fragilité, gravity, etc. Cette impression d'être toujours comme dans quelque chose où la moindre erreur se paye par une mort assez monstrueuse. Et c'est curieux, ce serait curieux d'interroger l'évolution de l'imaginaire même de l'espace dans Star Trek, comment on passe d'un espace assez human-friendly, on pourrait dire, quelque part, ou en tout cas assez domestiqué, dont on a réussi, dans une certaine manière, à déjà coloniser, à quelque chose.
Je voulais revenir sur ce qui a été évoqué par Hélène, donc en rebond de ce qu'avait dit Régis. C'est une question pour tout le monde, mais dans ce contexte de désenchantement, hein, des représentations, de l'exploration des espaces interstellaires, etc., qu'est-ce que vous feriez d'un film comme Arrival, qui, contrairement à ce qu'a dit Régis justement sur les premiers contacts, l'exploration qui mène vers la découverte de populations ou d'entités, quelle que soit leur nature, hein, mais de autres, on va dire. Comment, et alors d'un point de vue plus général, hein, par rapport à la discussion, comment vous situeriez ce film Arrival, qui donc au contraire nous décrit l'arrivée d'une forme autre d'existence sur Terre, et presque de formes d'existence qui viennent essayer de prendre contact avec les humains, par rapport à cette dynamique, hein, qu'on a décrit jusqu'à maintenant, qui était plutôt de l'ordre du désenchantement et de la nostalgie, de la perte et de la mort.
Je dirais que c'est plus un autre micro-genre en réalité, parce que c'est plus le genre du contact, comme le film Contact, comme Rencontre du troisième type. Je pense que c'est plus l'idée, et on retrouve un peu plus, on retrouve un peu Carl Sagan, on retrouve un peu les préoccupations, on pourrait dire, de la science-fiction humaniste des années 50 sur la possibilité d'une vraie confrontation avec quelque chose qui serait autre, mais qui ne serait pas nécessairement ni côté d'une altérophobie, ni d'une sorte d'opposition tutélaire vers l'humanité. Donc je pense que ce sont des films qui sont vraiment très centrés sur cet aspect spécifique. Et ils sont moins dans la conquête de l'espace, ils sont plus dans l'idée qu'on vient à nous et que se rejoue la fondation de l'Amérique. C'est quand même aussi des films très américains. C'est nous qui sommes dans la position des autochtones, tout à coup, qui voyons débarquer donc ces créatures que nous ne savons pas trop comment situer. Mais je pense que ce n'est pas des catégories totalement étanches parce qu'on peut passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, la parodie dans Mars Attacks de Premier Contact, où justement on bascule complètement dans l'horreur, mais un peu grotesque, avec la référence évidente, le clin d'œil au film donc mythique des années 50, le Clanku, là, je ne sais plus, c'est The Earth Stood Still, je pense.
Oui. Le jour où la Terre s'arrêta.
Oui, le jour où la Terre s'arrêta, etc. Donc je pense que ce n'est pas des sous-genres étanches, mais je pense que chacun met l'emphase sur un aspect différent. Et je pense que le fait que ces films-là ne se déplacent pas dans l'espace extérieur est assez significatif aussi, parce qu'ils essayent, il y a peut-être une dizaine de films comme ça dans le corpus qu'on pourrait établir, ils essayent de réagir à, par exemple, dans le cas de Le jour où la Terre trembla, ils réagissent à l'hystérie des films d'invasion. Et donc, il se posait plus la question que ce n'est pas tellement l'invasion qui est à craindre, c'est nous qui sommes à craindre en tant que notre potentielle folie de destruction atomique, etc. etc. Donc, je situerai plus le film de Villeneuve dans cette tradition-là humaniste plutôt qu'en...
Mais est-ce que tu vois un lien entre la recrudescence de films avec cette atmosphère nostalgique et mortifère, et par contraste, ce film-là, qui fait partie de la même période, qui est un peu seul, j'ai l'impression, de son espèce à ce moment-là?
Ouais, justement, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de voir la filiation, parce que c'est dans d'autres moments où il y a eu des films très anxiogènes sur les extraterrestres, tout ça, il y a eu des films comme Le jour où la Terre s'arrêta, et je pense que Arrival est un peu dans ce contexte-là, qui prend aussi des contextes politiques, évidemment, par rapport au contexte de la politique américaine et tout ça de son époque, parce que ce sont des films qui essayent quand même de rescaper la possibilité de la communication et qui ne soient pas régis par le darwinisme absolu qu'évoquait Régis. Oui. Donc, de la disparition.
Pour réagir à ça, par exemple, moi, je suis complètement d'accord avec toi pour qualifier le film de science-fiction humaniste, Arrival. Moi, il m'a fait beaucoup penser à Solaris. Solaris qui, déjà en 72, était une réponse à 2001. Solaris qui avait une vision assez pessimiste, assez sombre de l'exploration spatiale, qui imaginait ce premier contact avec une entité extraterrestre et qui, déjà, bon, adaptait un roman, mais qui montrait que la communication était impossible. On ne pouvait pas communiquer avec cet océan qui était littéralement inhumain. C'était l'incompréhension, c'était le quiproquo mortifère qui régnait jusqu'à la fin. Or, dans Arrival, c'est l'inverse. C'est qu'on peut communiquer avec une autre espèce. L'espace n'est pas vide. Il y a des extraterrestres. Et en plus, même s'ils sont vraiment, pour le coup, autres que nous, on peut malgré tout communiquer. On peut malgré tout se placer au même niveau qu'eux. Et on peut réussir à échanger des informations et échanger une sensibilité, quelque part. Donc, c'est un film, pour moi, qui est très, très optimiste, très positif par rapport à ça. Et il ne faut pas oublier
que... Excuse-moi, Maddy, mais le remake de Solaris est encore plus crépusculaire et dépressif.
Alors oui, le remake de Solaris, par contre, oui, effectivement.
Et, et c'est assez intéressant de voir que déjà qu'il y a un remake donc, qui est fait dans cette période, et en plus que c'est cet aspect très dépressif.
D'ailleurs, c'est Denis Villeneuve qui fait ce film, et c'est Denis Villeneuve qui fait Dune, qui lui, pour le coup, à mon avis, ne sera pas dans le cadre de la science-fiction crépusculaire, etc. Donc je ne crois pas que ce soit, même s'il a fait la suite de Blade Runner, je ne crois pas que ce soit vraiment son créneau. D'ailleurs, on a aussi le remake de Le jour où la Terre s'arrêta qui est sorti il y a une dizaine d'années, je crois, avec Keanu Reeves, et qui lui aussi se plaçait quelque part sur ce message d'avertissement qui imaginait qu'il existe une sorte de fédération extraterrestre qui vient en fait communiquer avec la Terre et qui vient prévenir les terriens des dangers environnementaux, en fait, écologiques qui menacent la Terre. Donc, une communication est possible. Et surtout, en fait, l'idée quand même fondamentale, c'est que l'espace est peuplé. L'espace n'est pas vide du tout, contrairement à Ad Astra. Il y a une communauté de civilisations extraterrestres qui attendent qu'on atteigne le stade où on soit prêt. C'est comme dans Sentinel, justement, tu disais, il y a l'ambiguïté à la fin. On nous révèle plus tard, en tout cas dans le film, que c'est le signal qui indique que l'humanité est prête à passer au stade supérieur. Donc c'est très, on revient à Arthur C. Clarke, je suis peut-être un peu obsédé par Arthur C. Clarke, mais on revient toujours à cette idée que le jour où l'humanité sera prête, comme dans Star Trek, hein, First Contact, le film l'a montré, le jour où l'humanité sera prête scientifiquement, mais aussi moralement et psychologiquement, eh bien, un destin merveilleux l'attend dans les étoiles et des amis seront là parmi les étoiles pour lui tendre la main et on vivra mille et une aventures. Donc ça, on est vraiment, à mon avis, c'est vraiment l'opposé quelque part de films comme Ad Astra. Et juste, je voulais revenir également sur ce qui était dit sur Star Trek. Moi, ce qui me frappe, c'est que le dernier épisode de la première série Star Trek, on ne dit pas assez, il est diffusé début juin 1969. Donc, on est vraiment, effectivement, comme tu disais, dans l'Amérique de Kennedy, l'Amérique de l'exploration spatiale, enthousiasme total. Et puis, on va arriver sur la Lune. Et puis après, boum, bah, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et justement, Gene Roddenberry, lui, il a encore envie de faire des séries télé. Il n'y arrivera pas, mais il va produire deux téléfilms plus un remake de ces téléfilms. Donc, il y a trois téléfilms où sa série, c'est une série post-apocalyptique sur Terre, où l'équipage vit dans une station souterraine et explore l'espace, c'est la surface de la Terre, la surface post-apocalyptique de la Terre qu'on redécouvre et qu'on essaie de reciviliser, c'est-à-dire de prêcher la bonne parole scientifique, rationnelle, éclairée à la Star Trek. Mais on voit bien qu'il s'est passé quelque chose entre 69, je crois que c'est 72 ou 73, le premier téléfilm qui est produit, il s'est passé quelque chose entre les deux. Et la dernière chose, c'était Star Trek La Nouvelle Génération. Il y a quand même le holodeck qui est introduit, donc la réalité virtuelle, où on va s'amuser à recréer la Terre d'antan ou des univers fictifs comme Sherlock Holmes, Et donc, on ressent le besoin, finalement, dans Star Trek de nouvelle génération, ce n'est pas suffisant d'être dans l'espace, ce n'est pas suffisant de découvrir des surfaces autres, des exoplanètes. Il faut aussi la réalité virtuelle et nous permettre de redécouvrir le passé, de simuler la civilisation terrienne. Et là, ça aussi, c'est hyper intéressant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était The City and the Stars, que je crois que j'ai mentionné tout à l'heure, le roman de Arthur C. Clarke, toujours. Je crois qu'il est date de 1953. Il y a une opposition qui est claire dans le titre, très binaire, entre la cité où les êtres humains vivent dans une cité souterraine qui ne bouge plus depuis des millénaires et en fait, ils s'amusent dans une sorte de réalité virtuelle. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui. Donc, ils vivent mille et une aventures grâce à la réalité virtuelle et les étoiles qui les attendent. Et le happy ending du film, du roman, pardon, c'est qu'ils vont réussir à s'arracher à cette réalité virtuelle mortifère où on tourne en rond, on ne fait que s'adonner à la société du plaisir pour se remettre à découvrir, se remettre à explorer, se remettre à ce qui est vraiment le progrès d'après non seulement Arthur C. Clarke, mais cette sorte d'idéologie, en fait.
De Clarke aussi, pour le contact, c'est bien sûr Childhood's End, qui est aussi une variation très intéressante sur ces questions.
On n'a pas trop parlé de l'espace crépusculaire, c'est-à-dire de l'espace comme porte de l'enfer littéral. On n'en a pas parlé de ça. En fait, j'ai deux itérations en tête. C'est Event Horizon, le film d'horreur, où là, vraiment, ça mène à l'enfer. Comme je suis toujours dans les jeux vidéo, c'est Doom. Doom, c'est un classique, ils vont sur Mars, ils arrivent et ça mène directement à une porte de l'enfer. Et en fait, l'idée que l'espace, c'est l'au-delà. Mais moi, ma question plus générale aussi, c'était, selon vous, à quoi elle est due cette mélancolie? C'est-à-dire, on disait, bah oui, Star Trek au tout début, c'était l'optimisme canadien. D'où ça vient, cette idée, d'un seul coup, qu'on serait impuissant, que l'exploration, ça nous mène à notre perte? Moi, j'ai quelques petites pistes qui sont un peu liées à ma thèse, c'est-à-dire méfiance face au progrès, méfiance face à l'idéologie progressiste, crise du progrès, crise de confiance envers la science. Ça peut être assez large, mais oui, je lance la question là, je lance le pavé là.
Je me demande s'il n'y a pas beaucoup la crise écologique qui joue aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ces films-là qui commencent par une crise majeure sur la Terre où la Terre n'est plus habitable. Donc, étant donné que l'exploration spatiale a mené à la prise de conscience écologique, la première pensée écologique moderne, disons, est apparue quand on a vu l'image de la Terre de l'espace. Donc, l'exploration spatiale, d'une certaine façon, nous a renvoyé un miroir de nous-mêmes. Puis je pense que c'est là qu'on a eu aussi peut-être le réflexe inverse, le mouvement inverse d'un retour vers la Terre. La plupart de ces films-là sont justement dans l'idée du retour, dans l'idée de, oui, on est dans l'univers, on peut l'explorer, mais ça va tellement mal ici qu'il faut plutôt trouver un moyen de le préserver. Donc, tous les films que je pense, c'est presque toujours ça. L'idée, c'est toujours de préserver quelque chose. Sunshine, c'est ça. Je dis, on va dans l'espace, mais c'est juste pour préserver la Terre, Interstellar. Et donc, je pense qu'il y a ça qui joue. Puis l'autre truc que je voulais peut-être, en réponse à ce que tu disais, c'est la série For All Mankind, qui a commencé l'année passée, qui est assez chouette et qui réfléchit exactement à ça au fond. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui revenir à l'idéologie d'exploration des années 60? Qu'est-ce que ça veut dire de se remettre dans la peau des gens de l'époque Kennedy? Puis qu'est-ce qui serait arrivé si les Russes avaient gagné? Comment ça aurait évolué? Comment on aurait militarisé la Lune, par exemple? Comment les femmes auraient forcément été impliquées dans le processus parce qu'il y avait des femmes dans le système soviétique, dans les cosmonautes? Et donc, il y a toute une façon de repenser l'exploration spatiale avec notre vision du monde d'aujourd'hui plutôt que celle des années 60, qui est assez intéressante, qui est là, pour le coup, pas complètement crépusculaire, qui reste un peu dans l'entre-deux. Par contre, ce qu'on voit bien dans For All Mankind, contrairement à ce qu'on a vu dans l'exploration spatiale qu'on a vu se dérouler dans les médias dans les années 60 et 70, c'est la difficulté infinie de le faire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout s'est tellement bien passé dans le système Apollo, dans l'exploration dans les années 60, on a l'impression que c'était hyper facile d'aller sur la Lune, qu'on y est arrivé presque du premier coup, alors que les ordinateurs qui étaient à bord étaient infiniment moins puissants que nos calculatrices d'aujourd'hui. Alors, on a l'impression que tout s'était magiquement bien passé, donc que l'exploration spatiale était aussi... C'est pour ça aussi qu'il y avait quelque chose de positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident majeur dans les premières années. Tout s'est déroulé comme prévu. On va aller sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Ben, ils sont allés en 69. Donc, on avait un peu l'impression que l'utopie se réalisait. Et donc, les années 70-80, on a vu un abandon. Et puis, évidemment, ça aurait pu dégénérer. Ça n'a pas trop dégénéré. Ça a juste été abandonné parce qu'on s'est retourné sur la Terre. D'ailleurs, les seules missions habitées depuis les dernières missions Apollo, c'est les missions autour de la Terre qui sont tout proches. Donc, on ne s'est même pas éloigné de notre propre orbite depuis ces années-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue.
Non, il y a un paradoxe énorme avec ça, parce que la réalité, c'est que ce que ça a ouvert la porte, c'est à la satellisation et à la surveillance généralisée sur notre planète. Donc, c'est assez curieux de voir que c'est ce qui semblait être quelque chose qui nous poussait vers le dehors. En fait, ça a transformé la planète dans une immense prison. Dans la réalité, c'est un peu ce qu'on vit. C'est-à-dire que nous sommes totalement surveillés par une technologie spatiale hautement militarisée. Le livre qui retrace tout ça, j'invite aussi tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est le livre de Mac Cordy, Space and the American Imagination, où il retrace un peu l'histoire de l'imaginaire américain de l'espace. Comme disait Reynolds, ce qui est assez hallucinant, c'est que quand on va sur la Lune, c'est l'événement planétaire, au même titre d'ailleurs que Ballard signale que l'assassinat de Kennedy, c'est « Où étais-tu quand ils ont marché sur la Lune ?» Un an après, on ne montre même plus donc la nouvelle mission, et c'est le Doris Day Show qui prend la place. Donc, on considère que ça vaut même plus la peine. Plus intéressant de voir Doris Day, qui était déjà une figure totalement has-been en 70, mais que c'était encore plus intéressant que de voir à nouveau des astronautes. Donc, il y a aussi quelque chose d'hallucinant qui s'est passé, que Mark Kirby analyse d'un point de vue historique, socio-économique, etc. Mais vraiment un moment aussi où l'Amérique se dit non, on ne va pas continuer à dépenser de l'argent pour rien, pour prendre des photos sur un caillou mort. On a assez de problèmes. C'est le moment aussi où l'Amérique est en train de se voir comme quelque chose de potentiellement dystopique. C'est vraiment l'imaginaire de cette crise. Donc, c'est l'imaginaire de fracture sociale, de l'imaginaire du nouvel Hollywood, etc. Donc, c'est assez curieux de voir qu'à ce moment-là, l'Amérique n'est plus du tout tournée vers la conquête de l'extérieur. Au contraire, elle est en train de montrer, l'inspecteur Harry, tout ça, elle est en train de montrer à quel point l'Amérique ne va pas du tout bien, et à quel point la frontière de la pauvreté et tout ça dont parlait Johnson n'a pas du tout été conquise.
Ça a pris Apollo 13 pour renouveler l'intérêt, hein? Ça prenait la potentialité de mort, le danger pour que ça intéresse l'Amérique. Puis c'est les Whiteys on the Moon aussi, c'était justement les luttes raciales aux États-Unis aussi en même temps. Donc,
oui, qui disait que justement, ouais, qu'on était en train de dépenser une fortune totalement aberrante pour un truc pharaonesque et absurde, alors qu'il y avait tellement de défis dans la société américaine à déplacer. Je pense qu'il y avait Vietnam aussi qui était là. Enfin bon, il y a tout un autre imaginaire qui change.
Je voulais revenir sur un point qu'a abordé Hélène qui me paraît très important par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. C'est, j'ai pas encore vu For All Mankind, mais j'ai tout de suite pensé à une autre série qu'on apprécie toutes les deux, c'est Ascension. Et en fait, ce que je voulais évoquer, c'est cette sorte de retour sur image ou de retour sur l'imaginaire des années 50-60 qu'on voit apparaître au-delà des séries de SF. On a plein d'exemples de séries qui remettent en scène des univers des années 50-60. Bon, évidemment, Mad Men, enfin, etc. Mais dans Ascension, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement, d'une certaine façon, l'idée que tout est voué à l'échec par avance, hein, puisque, bon, là, je vais évidemment divulgacher largement pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, mais au terme du premier épisode, en plus c'est une mini-série, donc c'est sympathique, ça ne prend pas non plus des heures et des heures de visionnage. Au terme du premier épisode, on se rend compte que tous ces habitants qui sont dans ce qui pense être un vaisseau spatial d'exploration interstellaire sont en fait bloqués sur Terre depuis le départ et sont des cobayes dont on se sert pour mettre en place une expérience. Et il y a là peut-être aussi quelque chose d'intéressant, je pense, en termes de retour sur un imaginaire passé remis en scène par ces séries-là à la période contemporaine qui peut-être serait à surveiller pour voir s'il y aura d'autres séries de ce type-là par la suite, mais je vais m'empresser d'aller voir For All Mankind pour voir justement ce qui s'y passe.
Oui, bah moi aussi, il faut que j'aille voir cette série, j'en avais entendu parler, j'ai pas du tout regardé. Mais j'allais rebondir un petit peu, surtout, tu parlais, Antonio, du côté dystopique de l'Amérique, l'Amérique qui réfléchit sur elle-même, et c'est pareil, j'avais une lecture un peu politique de la chose. Si je voulais faire un petit jeu de mots avec ma thèse, je dirais qu'il y a une forme de décadence aussi de l'esprit d'exploration spatiale, parce que j'essaie de méditer un petit peu là-dessus en me disant, est-ce que c'est pas lié tout ça aussi aux volontés de puissance civilisationnelle, c'est-à-dire après la fin de l'histoire théorisée par Fukuyama, est-ce que les civilisations ont encore cette volonté de puissance, de conquête, surtout à l'ère de la décolonisation, où il y a cette critique-là aussi. Et donc, je lis ça à la fin de l'histoire en me disant, Étant donné qu'après la guerre froide, les États-Unis ont en quelque sorte gagné et qu'on pensait que c'était, enfin certains pensaient que c'était la fin de l'histoire, est-ce qu'il y avait encore cet objectif suprême qui était un objectif qui permettait aussi de montrer qui était le plus fort sur le terrain géopolitique? Et d'ailleurs, on constate que depuis que les États-Unis ont retrouvé une superpuissance en phase 2, c'est-à-dire la Chine, le spatial revient au centre du débat. Donc je lis ça beaucoup aux volontés de puissance de civilisation.
Oui, absolument. D'ailleurs, le Space Array, ça a été vraiment, c'est là qu'on parle vraiment du complexe militaro-industriel. Ça a été très étrangement à la fois une sorte de jeu de dupes, mais en même temps, il y a même des théories sur le fait que l'Amérique voulait que la Russie dépense énormément d'argent dans cette course, plutôt que de la dépenser dans d'autres choses qui pourraient être plus stratégiquement dangereuses, etc. Donc, il y a vraiment des enjeux assez incroyables. C'est quelque chose qu'on commence à étudier, comme c'est quand même l'histoire récente au fond, même si ça semble déjà très ancien, mais les historiens mettent toujours un petit peu de temps à s'intéresser, c'est le propre de leur profession, de leur métier. Et là, il y a quelques grandes histoires politiques, par exemple, il y a « A Political History of a Space Age », etc. Et il y a quelque chose d'intéressant, même dans le fait qu'on commence à se réintéresser, parce que je me rappelle qu'il y a eu vraiment une époque où c'était juste les fans de SF et tout ça qui continuaient à triper sur ça, mais ce n'était plus du tout dans le discours social. Et, alors qu'effectivement, maintenant, on se repose les questions. Redéfinis aussi, maintenant on parle par exemple, il y a 2 semaines, je pense, on parlait à nouveau de ce vieux projet de sortir de l'espace et revenir tout de suite pour faire des trajets plus rapides, pour faire le tour du monde en 2 heures. Genre. Et donc c'est assez curieux aussi comment on est un peu dans les diminishing expectations. Donc on n'est plus dans l'idée de Star Trek, de qu'on va aller dans les confins de l'univers. On est vraiment dans l'idée, bon, les Chinois veulent retourner sur la Lune parce qu'ils veulent lui faire des trucs rentabilisés, etc., etc. Donc, on est dans un autre stade colonial de cette imagination.
On a quand même des milliardaires qui rêvent d'aller faire des colonies sur Mars. Par rapport à notre sujet, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a un retour dans le discours public de « oui, mais il pourrait y avoir des morts ». Puis alors que ça, on ne se posait pas tant la question. Avant, c'était comme un peu une évidence. À l'époque d'Apollo, on envoyait des soldats, on s'attendait à ce qu'il y ait potentiellement des morts. Je veux dire, oui, ça aurait été tragique, mais ça aurait été attendu d'une certaine façon. Alors que là, on veut envoyer des dizaines de personnes sur Mars, alors que ça, je veux dire, il n'y a aucune structure, il n'y a aucun plan très concret. Et puis là, soudainement, on accuse les milliardaires de vouloir amener ces gens-là puis de peut-être les amener à la mort. Mais alors que c'est une évidence, ils ne vont pas se reproduire pendant des générations si tu amènes 10 personnes sur Mars. Et donc, il y a comme une espèce d'imaginaire de « on veut bien continuer à explorer, mais la mort est rendue beaucoup trop problématique aujourd'hui pour que ça soit encore acceptable ». On n'est plus dans une logique de guerre, on n'est plus dans une logique de guerre froide. Donc, le sacrifice est devenu quelque chose d'inacceptable. Et donc, le discours sur l'exploration, il me semble, s'est déplacé un peu comme d'une croisière de luxe, en fait. On est vraiment rendu, l'exploration spatiale, c'est faut que ça soit 100% sécuritaire pour les riches et pour se divertir. Donc, on n'est plus du tout dans le même paradigme, il me semble, qu'avant.
Oui, oui, non. Et puis c'était curieux parce que c'est vraiment l'ensemble du projet qui n'est plus le même imaginaire, on dirait. Parce que ce qui était fort dans cet imaginaire-là, c'était justement l'arrivée des corps humains dans l'espace, etc. Et c'est ce qui fait problème dans tous ces films-ci. Donc c'est assez, c'est très curieux de voir pourquoi c'est justement l'imaginaire que l'on a, nous, de la possibilité d'aller dans l'espace, les corps humains, et au moment où finalement la question se repose à nouveau. Donc on dirait qu'on est un peu comme souvent entre les représentations et le discours social, il y a des effets des fois d'arrimage, mais il y a aussi beaucoup de décalage en fait. Et là, je pense qu'on a les deux.
Par rapport aux Chinois, justement, à cette nouvelle, parce que c'est vrai, hein, on est en train de voir un nouveau space race se développer grâce ou à cause de l'arrivée de la Chine, mais pas que. Mais même les Chinois font attention. Il y a eu un décollage il y a quelques jours, on voit de 3 nouveaux taïkonautes pour continuer à construire la station spatiale. Et c'est la première fois qu'on filmait le décollage en direct. Parce qu'auparavant, on avait trop peur, le gouvernement chinois avait trop peur qu'il y ait un problème, un accident, une explosion, et que ça passe en direct à la télévision. Ce n'est pas bon du tout pour la propagande. Et là, ils ont gagné suffisamment confiance en eux pour pouvoir montrer ça. Donc, il y a malgré tout quand même en Chine, quand même, faut bien dire ça, même en Chine, l'opinion publique compte et l'opinion publique pourrait facilement se retourner contre le programme spatial si on commence à avoir des morts comme ça, si on commence à avoir des accidents de ce type-là. Donc, il y a cette fébrilité-là. Tu mentionnais à l'instant la croisière, je ne peux pas m'empêcher, la croisière interstellaire, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette super série dont on ne parle pas assez, Avenue 5. Sur HBO, puisque c'est des gens qui se payent une croisière pour avoir des cocktails, manger, être tranquille à bord de ce bateau de croisière, ce paquebot de croisière interstellaire. Or, il y a un petit accident, ils ne vont pas pouvoir revenir avant peut-être les 4 ou 5 prochaines années, ça dépend combien de saisons il y aura. Et donc, c'est la croisière s'amuse dans l'espace, en version quand même assez acide et satirique, parce que voilà, c'est quand même de l'humour.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Il y a quand même ce rapport entre les riches et les pauvres, il y a quand même ce rapport entre qu'est-ce que je fais là, etc. Ce cynisme commercial qui est mis en avant. Donc c'est assez intéressant aussi de penser à cette série sous cet angle-là.
Et puis dans les films d'animation, il y a Wall-E aussi, avec l'humanité qui s'est isolée sur une espèce de paquebot spatial. Ils sont tous gros sur des grosses machines et la robotique fait tout pour eux aussi, ça ressemble à ça aussi.
Il y a aussi l'imaginaire de la poubelle spatiale, parce que le film là, qui a eu du succès, qui est chinois justement, je pense, ou coréen, sur Netflix, qui rejoint un peu d'ailleurs un manga il y a une dizaine d'années, qui prenait aussi des gens qui doivent déblayer la poubelle parce qu'on a tellement pollué l'espace. Et ça, c'est aussi, il y a quelque chose de très déprimant dans l'idée de l'espace qui était l'imaginaire depuis les Grecs, etc., anciens, le cosmos et tout ça. Et que maintenant, c'est une immense poubelle pour la Terre. Donc, ça aussi, le fait que ça devienne l'enjeu des nouveaux astronautes, cosmonautes, taïkonautes, etc., c'est assez révélateur aussi.
Oui, c'est le film coréen dont tu parles.
Oui, oui exact. Oui, oui. Mais bon, c'est un work in progress pour tout le monde, pour les créateurs, pour notre culture, pour l'espace et pour Pop en Stock. Donc, merci encore une fois, Hélène, les deux Hélène. Merci Mehdi, merci Régis. Merci donc tous ceux et celles qui nous écoutent et à la prochaine.
Bonjour à toutes et à tous. À la suite de cet épisode sur l'imaginaire de plus en plus crépusculaire de l'espace extérieur, l'espace intersidéral dans la culture populaire, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo de science-fiction, et en particulier ceux qui se déroulent dans l'espace, qui réunissaient donc Antonio, Mehdi Achouche, Régis-Pierre Fieux, Hélène Machinal et moi, nous vous offrons un supplément qui explore un aspect un peu différent de la question, soit l'espace de l'au-delà, et en particulier les séries télé récentes qui se déroulent dans un au-delà qui relève surtout de la réalité virtuelle, du monde simulé. Ce n'est donc pas la mort dans l'espace ou la mort de l'exploration spatiale, mais l'espace de la mort. Je laisse donc la parole à Hélène Machinal qui vous propose une analyse des excellentes séries de Good Place et Upload. Bonne écoute!
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'association entre espace et mort qui m'a fait penser à un autre type d'espace qu'on pourrait aussi appeler crépusculaire. Donc, il s'agit de l'espace virtuel, mais plus spécifiquement des paradis virtuels, c'est-à-dire un espace virtuel associé à un au-delà, un espace d'après la mort physique et organique. Alors, je pense à trois exemples en particulier, mais vous verrez que je ne vais pas tous les développer. Bien sûr, il y a l'exemple de l'épisode de la série d'anthologie Black Mirror qui s'appelle San Junipero, où les personnages font le choix de l'euthanasie pour vivre dans un paradis éternel où ils conservent, entre guillemets, le corps de leurs 20 ans. En revanche, je vais parler plus de The Good Place, même si je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail des 4 saisons, parce qu'on a quand même un certain nombre de déclinaisons de l'espace virtuel et de rebondissements liés à l'espace virtuel, mais où on retrouve donc des personnages qui intègrent aussi un espace virtuel après leur mort. Et puis la série récente Upload, où l'on achète une place dans un espace de téléchargement de la conscience, donc autre figuration de ces paradis ou ces enfers virtuels. Alors, on note au passage, d'ailleurs, c'est assez intéressant, je pense que les créateurs respectifs de ces deux comédies, parce qu'en plus, dans les deux cas, il s'agit de comédies, San Junipero, c'est plus complexe, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais les créateurs respectifs des deux comédies, donc Greg Daniels pour Upload et Michael Schur pour The Good Place, sont d'anciens collaborateurs puisqu'ils avaient travaillé ensemble sur les séries The Office et Parks and Recreation. Alors, on aurait presque un quatrième exemple qu'on pourrait citer un peu pour la forme, parce que là aussi, je ne développerai pas. Et puis, je pense que c'est un exemple qui dépasse un petit peu le cadre que je me suis fixé, c'est l'espace virtuel où se réfugient les androïdes après la destruction de Westworld, donc à la fin de la saison 2. Mais je vais laisser cet exemple de côté parce que, en fait, il n'est pas réellement développé dans la série, en tout cas pas dans la saison 3, en tant qu'espace de représentation. Et par ailleurs, il ne constitue pas réellement un monde fictif. Donc, je pense que c'est plus un exemple un peu parallèle. Donc, dans les deux exemples que je vais surtout utiliser, hein, ce qui est intéressant également, c'est que l'espace virtuel s'est transformé. Donc, le virtuel n'est plus un espace de la simulation, ce qu'il a été pendant très longtemps, et en particulier dans les années 2000-2010. Évidemment, c'était souvent le cas avec le space opera ou avec le cyberpunk. On pense au personnage de Sarah dans Dark Matter, ou à la torture à laquelle est soumise Christine Ortega dans la saison 1 de Altered Carbon, ou encore au personnage de Sho dans Person of Interest, qui elle aussi a donc subi des formes de torture par la simulation virtuelle. Donc ici, c'est bien un espace virtuel, mais il est définitif, hein, contrairement aux exemples d'espaces virtuels qui représentent des espaces de simulation. C'est un espace virtuel définitif au sens où on n'en revient pas. Hein, c'est un aller simple, en quelque sorte. Bon, évidemment, l'espace virtuel n'est pas non plus un topos nouveau de la science-fiction. Hein, et ce que je voudrais essayer de proposer comme hypothèse, c'est que l'espace virtuel a énormément changé, en particulier donc, depuis l'avènement de la société écranique et de la culture de l'écran. D'abord, en l'espace de quelques décennies, ces représentations audiovisuelles ont énormément évolué, de sorte qu'en termes figurales, ils ne se distinguent plus de l'espace diégétique de la représentation du monde fictif, hein, contrairement à des films plus anciens dans lesquels on percevait tout de suite en tant que spectatrice ou spectateur qu'on était passé dans un autre type d'espace. Dans les exemples dont je vais parler, les espaces virtuels font réellement monde. Ils constituent même des mondes possibles, voire des mondes alternatifs. Et dans The Good Place, on a aussi donc des déclinaisons de mondes virtuels ou des mondes virtuels parallèles, on pourrait dire. Donc, ces univers virtuels sont les nouveaux paradis ou les nouveaux enfers, hein, dans l'imaginaire contemporain de l'au-delà. Et on y accède après la mort, mais il figure également un espace de la renaissance. Donc la transition entre vie et mort n'y est pas toujours représentée de la même manière, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter dans un premier temps. Donc dans The Good Place, si vous vous souvenez, on voit la nouvelle arrivante ouvrir les yeux, lire le slogan « Welcome, everything is fine »,« Bienvenue, tout va bien », avant d'être accueillie par Michael, qui lui explique donc qu'elle est morte et que sa vie sur Terre a pris fin, qu'elle a accédé à l'étape suivante. Et donc, il lui déclare « You're now in the next phase of your existence in the universe ». Donc, tu es maintenant dans la phase d'après de ton existence dans l'univers. Alors, bien entendu, la série va s'appliquer à complexifier, hein, l'espace virtuel au fil des saisons. Et je voudrais juste revenir rapidement sur le fait qu'il y a plusieurs espaces liminaux représentés dans l'espace virtuel, et qu'un espace liminal qui est important en termes de dynamique des représentations de l'espace virtuel associé à la mort, c'est celui qu'on découvre dans la saison 3, lorsque les personnages retournent sur Terre. Donc ce retour dans le monde organique s'opère par le passage d'une porte qui conduit dans une sorte de pont suspendu, au bout duquel se trouve le fameux portier avec sa grenouille. Donc l'espace sans fin qui s'étend de part et d'autre, hein, de ce pont suspendu, illuminé par des réverbères, cet espace est totalement noir et pourrait rappeler d'une certaine façon l'espace interstellaire. On a aussi un renversement de ce type d'espace infini et obscur avec les vides, hein, les voids des Janet, qui sont au contraire des espaces blancs, mais tout aussi abyssaux et sans fond. Et Janet les définit d'ailleurs comme, donc je la cite parce que c'est toujours assez amusant de rappeler certaines des répliques de Janet dans cette série, c'est pour moi le personnage le plus intéressant de la série d'ailleurs, qui les définit, donc je la cite, comme « a sub-dimension outside of space and time at the nexus of consciousness and matter tethered to my essence. Does that help ?» Un espace, un sous-espace à l'extérieur du temps et de l'espace, au noyau de ma conscience et de la matière, rattaché à mon essence, ça vous aide ? Donc Janet, qui est donc, comme je l'ai dit, sans doute le personnage le plus travaillé de cet univers virtuel, hein, est aussi un personnage qui peut me permettre d'évoquer rapidement les billes, les fameuses billes. Donc je ne sais pas trop comment ça a été traduit en français dans les traductions de la série, mais on a envie de parler de la marbelisation des Janet, hein, mais ça nous amènerait un peu trop loin dans cette question des espaces virtuels et liminaux. Pardon, mais juste pour montrer que dans The Good Place, on a une déclinaison, hein, d'un certain nombre d'espaces de ce type. Alors, dans Upload, le candidat, vous vous souvenez peut-être du premier épisode, est littéralement décapité. au moment où il va se retrouver hein, dans les espaces de téléchargement, pour accéder à cet espace de téléchargement, il doit faire le choix, donc au moment de sa mort imminente, d'être téléchargé. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ce téléchargement est opéré. Donc, il est décapité, sa tête est happée dans une tache dorée dont la charge symbolique, l'or, la chaleur, le feu, le mouvement ascensionnel, contraste drastiquement avec le sort réservé au reste de son corps, qui tombe sans grâce aucune vers l'avant dans un cercueil rempli de glace, les fesses à l'air. Alors, il faut dire que dans Upload, il n'y a pas de retour possible. Hein, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec The Good Place, on achète une place dans un espace de téléchargement, et en tout cas, au terme de la saison 1, on y reste. Donc, le processus de retour au monde ou de renaissance virtuelle dans Upload, peut-être mis en regard de celui de The Good Place. Parce qu'en fait, alors que dans The Good Place, on a un gros plan au début de l'épisode 1, on a un gros plan sur les yeux d'Eleonore sur le point de s'ouvrir dans ce nouveau monde, dans Upload, nous ne sommes plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de la conscience de Nathan, qui commence par entendre une voix. Donc, reprendre contact avec une forme d'être à soi, un espace intérieur, hein, on en a parlé tout à l'heure, passe ici par la voix de Nora qui lui demande de penser, ou plutôt de se penser en tant que conscience. Hein, vous vous rappelez, la première chose qu'il entend, qu'elle lui dit, c'est « I want you to think of yourself, the I in the sentence I think, therefore I am. » Donc, je veux que tu penses à toi-même, enfin à toi, à ton être, le « je » dans la phrase « je pense donc je suis ». Puis, elle lui demande de penser les lettres de l'alphabet, les couleurs, ce qui va mener à la reconstruction d'une image, d'un monde fictif, hein, en fait, le monde virtuel de Lakeview. Alors, je voudrais revenir à The Good Place et à la façon dont ce passage dans un nouvel espace est opéré, hein, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, avec, si on essaie de décortiquer ou de déconstruire un peu cette première séquence du film, on commence avec un gros plan sur les yeux d'Eléonore, avant que de couper hein, et d'enchaîner sur un plan poitrine, donc qui confirme aussi l'accent mis sur le visage. Et on finit avec un plan filmé de derrière le personnage, dont la posture de lectrice est alors introduite, puisqu'on lit avec Eleonore les mots de bienvenue hein, que je t'ai cités tout à l'heure. Donc, on est tout de suite dans le prisme perceptif du personnage, ancré dans le corps, mais un corps qui pense d'emblée. Dans le cas de The Good Place, qui pense d'emblée, qui voit, qui perçoit et qui pose très rapidement des questions. Where am I? Who are you? What's going on? Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Et que se passe-t-il? Au contraire, Upload recrée en dernier, mais en tout dernier, le corps du personnage. Donc on a d'abord accès à ce qu'il voit, mais sans que le corps se soit matérialisé dans l'avatar, en fait. On perçoit ce nouveau monde avec lui et par lui, de l'intérieur de sa conscience, en quelque sorte. Le premier épisode va ensuite proposer des séquences alternées entre la réalité sociale de Nora, marquée par le contrôle des écrans, l'omniprésence des images processus de connaissance, des technologies du numérique qui envahissent tout, des steaks et garnitures hein, produits par un micro-ondes imprimante 3D aux voitures autonomes, et l'exploration de Lakeview par Nathan. Donc, dès le premier épisode, Nathan repère ou se fait expliquer sa nouvelle réalité. Et le paradis artificiel, on s'en rend compte très rapidement, et ça va être filé, hein, bien sûr, dans les épisodes, comprend de nombreux glitches, comme dans celui qu'on voit dans le premier épisode, c'est les gifs du lac qui bug quand le débit des données est trop important. Mais ce qui est rapidement mis en avant, c'est l'écart entre les images idylliques relayées par la publicité, donc pour ce type d'espace virtuel qu'on intègre après la mort, et qui d'ailleurs ouvre le générique du premier épisode, et la réalité de cet espace virtuel où tout est contrôlé par la finance et l'économie de marché. Le personnage, qui est lui-même codeur de profession, constate à la fois le très haut degré de réalisation technologique de Lakeview, qui entretient une illusion de réalité très convaincante, et le fait que les feuilles des arbres du parc sont estampillées du logo de l'entreprise. Donc l'espace virtuel tombe dans le même travers que l'espace non virtuel, finalement, celui d'une logique économique qui prend le pas sur tout, à ceci près que dans ce monde virtuel, les êtres sont transformés en consommateurs, mais pour l'éternité. Et c'est peut-être là que se situe la différence porteuse de sens entre les deux exemples. Upload présente l'univers virtuel de l'au-delà comme un univers de luxe et de profusion, où tout est accessible si on appartient à l'élite financière, mais où les systèmes de domination capitaliste perdurent. The Good Place s'illustre davantage par des rebondissements spatiaux entre The Good Place, The Bad Place, The Middle Place, et c'est d'une certaine façon toute la question des représentations de l'au-delà qui est mise en perspective, même si on a aussi une réflexion éthique dans cette série. Bien sûr, Upload ne comprend pour le moment qu'une seule saison, hein, mais l'introduction dans les derniers épisodes de la saison 1 d'un espace virtuel réservé aux prolétariats et aux prouves, hein, les two gigs Upload, est une piste qu'on, je pense, il nous faudra suivre, hein, dans la saison 2. Donc, pour conclure, je voudrais vous proposer une hypothèse, hein, qui reste qu'une hypothèse, et c'est vraiment une hypothèse que je soumets à votre sagacité, c'est que peut-être la fin ou la dimension nostalgique, hein, qui a été décrite jusqu'à présent, hein, dont est entachée désormais, hein, ces représentations de l'exploration des espaces interstellaires ou la quête d'espaces potentiels de renouveau, c'est peut-être déplacé, hein, vers de nouvelles représentations que seraient ces explorations des espaces virtuels. Ces espaces virtuels qui seraient donc devenus synonymes de l'au-delà, mais aussi d'un accès à un simulacre. Donc ça, c'est ce qu'on a dans San Junipero, l'illusion d'un bonheur fondé sur les clichés de la rom-com, un accès à une farce orchestrée, hein, par le manipulateur faustien dans The Good Place, qui est Michael, l'architecte, ou un accès à un espace régulé par les lois du marché et aux mains de pouvoir financier avec Upload. Donc, la comédie post-mortem est bien éloignée, bien sûr, du space opera. Et pourtant, il semblerait qu'elle permette un renouveau dans l'exploration spatiale, donc au sens de l'exploration des espaces, hein, mais d'un espace d'une autre nature. Ce qui change peut-être aussi, entre les deux exemples que j'ai essayé de développer aujourd'hui, c'est le degré de réflexivité. Parce qu'avec Upload, par exemple, on est dans un monde possible, finalement, très peu éloigné du nôtre. Et d'ailleurs, la Diégèse, hein, nous situe d'emblée en 2033, ce qui n'est pas si lointain. Et les évolutions technologiques, hein, n'y sont pas beaucoup plus avancées, finalement, que dans notre présent. Et le fait que des marques, hein, comme L'Oréal ou Google y soient explicitement mentionnées, qui semble aussi un détail intéressant, renforce à la fois la réflexivité avec le monde contemporain, hein, de la réalité, mais aussi renforce le trait, hein, la dénonciation, je dirais, de l'hégémonie du marché dans une société où tout individu est avant tout un consommateur, constamment évalué, noté, et donc mis en concurrence, hein, et devenu à son tour un produit de consommation.
Merci beaucoup, Hélène, pour cette analyse fort intéressante qui, je l'espère, va avoir éclairé nos auditeurs. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt, j'espère.